Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 19 sur 24.
Ce joli couple atteignit le commencement de l'automne au milieu des fêtes et des plaisirs de la campagne, en se laissant doucement abandonner au courant du sentiment le plus doux de la vie, en le fortifiant par mille petits accidents que chacun peut imaginer. Les amours se ressemblent toujours en quelques points. L'un et l'autre, ils s'étudient, autant que l'on peut s'étudier quand on aime. Enfin, jamais amourette n'a si promptement tourné en mariage d'inclination, disait le vieil homme qui suivait les deux jeunes gens de l'œil comme un naturaliste examine un insecte au microscope. Ce mot effraya monsieur et madame de Fontaine. Le vieux Vendéen cessa d'être aussi indifférent au mariage de sa fille qu'il avait naguère promis de l'être. Il alla chercher à Paris des renseignements et n'en trouva pas. Inquiet de ce mystère et ne sachant pas encore quel serait le résultat de l'enquête qu'il avait prié un administrateur parisien de lui faire sur la famille Longueville, il crut devoir avertir sa fille de se conduire prudemment. L'observation paternelle fut reçue avec une feinte obéissance pleine d'ironie. « Au moins, ma chère Émilie, si vous l'aimez, ne lui avouez pas. Mon père, il est vrai que je l'aime, mais j'attendrai pour le lui dire que vous me le permettiez. Cependant, Émilie, songez que vous ignorez encore quelle est sa famille, son état. Si je l'ignore, je le veux bien. Mais mon père, vous avez souhaité me voir mariée, vous m'avez donné la liberté de faire un choix, le mien est fait irrévocablement. Que faut-il de plus ?
Il faut savoir, ma chère enfant, si celui que tu as choisi est fils d'un pair de France, répondit ironiquement le vénérable gentilhomme. Émilie resta un moment silencieuse. Elle releva bientôt la tête, regarda son père et lui dit avec une sorte d'inquiétude
« Est-ce que les Longueville ?»
sont éteints à la personne du vieux duc de Rothstein-Lingbourg qui a péri sur l'échafaud en 1793. Il était le dernier rejeton de la dernière branche cadette.
« Mais mon père, il y a de fortes bonnes maisons issues de bâtards. L'histoire de France fourmille de princes qui mettaient des barres à leur écu.
Tes idées ont bien changé, » dit le vieux gentilhomme en souriant. Le lendemain était le dernier jour que la famille Fontaine dut passer au pavillon Planat. Émilie, que la vie de son père avait fortement inquiétée, attendit avec une vive impatience l'heure à laquelle le jeune Longueville avait l'habitude de venir, afin d'obtenir de lui une explication. Elle sortit après le dîner et alla se promener seule dans le parc en se dirigeant vers le bosquet aux confidences où elle savait que l'empressé jeune homme la chercherait. Et tout en courant, elle songeait à la meilleure manière de surprendre, sans se compromettre, un secret si important, chose assez difficile. Jusqu'à présent, aucun aveu direct n'avait sanctionné le sentiment qui l'unissait à cet inconnu. Elle avait secrètement joui, comme Maximilien, de la douceur d'un premier amour, mais aussi fiers l'un que l'autre, il semblait que chacun d'eux craignît d'avouer qu'il aima. Maximilien Longueville, à qui Clara avait inspiré sur le caractère d'Émilie des soupçons assez fondés, se trouvait tour à tour emporté par la violence d'une passion de jeune homme et retenu par le désir de connaître et d'éprouver la femme à laquelle il devait confier son bonheur. Son amour ne l'avait pas empêché de reconnaître en Émilie les préjugés qui gâtaient ce jeune caractère, mais il désirait savoir s'il était aimé d'elle avant de les combattre, car il ne voulait pas plus hasarder le sort de son amour que celui de sa vie. Il s'était donc constamment tenu dans un silence que ses regards, son attitude et ses moindres actions démentaient. De l'autre côté, la fierté naturelle à une jeune fille, encore augmentée chez Mademoiselle de Fontaine par la sotte vanité que lui donnait sa naissance et sa beauté, l'empêchait d'aller au-devant d'une déclaration qu'une passion croissante lui persuadait quelquefois de solliciter. Aussi, les deux amants avaient-ils instinctivement compris leur situation sans s'expliquer leur secret motif. Il est de moments de la vie où le vague plaît à de jeunes âmes. Par cela même que l'un et l'autre avaient trop tardé de parler, ils semblaient tous deux se faire un jeu cruel de leur attente. L'un cherchait à découvrir s'il était aimé par l'effort que coûterait un aveu à son orgueilleuse maîtresse. L'autre espérait voir rompre à tout moment un trop respectueux silence. Assise sur un banc rustique, Émilie songeait aux événements qui venaient de se passer pendant ces 3 mois pleins d'enchantement.
les soupçons de son père étaient les dernières craintes qui pouvaient l'atteindre. Elle en fit même justice par deux ou trois de ses réflexions de jeune fille inexpérimentée qui lui semblèrent victorieuses. Avant tout, elle convint avec elle-même qu'il était impossible qu'elle se trompât. Durant toute la saison, elle n'avait pu apercevoir en Maximilien ni un seul geste, ni une seule parole qui indiquasse une origine ou des occupations communes. Bien mieux, sa manière de discuter décelait un homme occupé des hauts intérêts du pays. D'ailleurs, se dit-elle, un homme de bureau, un financier ou un commerçant n'aurait pas eu le loisir de rester une saison entière à me faire la cour au milieu des champs et des bois en dispensant son temps aussi libéralement qu'un noble qui a devant lui toute une vie libre de soins. Elle s'abandonnait au cours d'une méditation beaucoup plus intéressante pour elle que ses pensées préliminaires, quand un léger bruissement du feuillage lui annonça que depuis un moment, Maximilien la contemplait sans doute avec admiration. « Savez-vous que cela est fort mal de surprendre ainsi les jeunes filles ?» lui dit-elle en souriant. « Surtout lorsqu'elles sont occupées de leurs secrets, » répondit finement Maximilien. « Pourquoi n'aurais-je pas les miens ? Vous avez bien les vôtres ?»«
Vous pensiez donc réellement à vos secrets ?»
reprit-il en riant. « Non, je songeais aux vôtres, les miens je les connais. » Mais... s'écria doucement le jeune homme en saisissant le bras de Mademoiselle de Fontaine et en le mettant sous le sien. « Peut-être mes secrets sont-ils les vôtres et vos secrets les miens ?» Après avoir fait quelques pas, ils se trouvèrent sous un massif d'arbres que les couleurs du couchant enveloppaient comme d'un nuage rouge et brun. Cette magie naturelle imprima une sorte de solennité à ce moment.